Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous avez peut-être déjà entendu ce dicton français qu'on a utilisé pour le titre d'un talk show en 2014 sur une chaîne de la télévision française. Un talk show qui a disparu pratiquement aussi vite qu'il est apparu, faute d'audience d'ailleurs. Et qui avait ce titre « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». L'idée de ce dicton, c'est que garder toujours la même idée, c'est pas très sérieux, c'est pas très intelligent. Et on met en avant comme vertu le fait de changer régulièrement d'avis. Avec l'idée, ça c'est quand même très français, qu'on n'a pas envie de se faire avoir. Et donc on se dit, voilà, que être intelligent, c'est changer régulièrement d'avis. Nous parcourons depuis quelque temps l'épître de Paul aux Galates. Et dans cette épître, Paul ne cesse de nous marteler « Il n'y a qu'un seul évangile. » Il n'y a qu'un seul évangile. Et nous n'avons pas à changer d'avis tous les quatre matins concernant le seul évangile qui nous sauve. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre aux Galates, au chapitre 2. Galates, chapitre 2. Et je lirai ce matin les versets 11 à 16. Galates, chapitre 2, versets 11 à 16. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. » Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit au regard de la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu obliger les non-juifs à adopter les coutumes juives. Nous, nous sommes juifs de naissance. Nous ne sommes pas de ces pécheurs, de non-juifs, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi en Christ et non pas des œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » J'arrête là la lecture pour ce matin, mais si vous lisez la suite, vous voyez que le raisonnement de Paul continue. Donc, pour faciliter la compréhension ce matin, et puis pour ne pas faire une prédication de 2 heures, j'ai coupé le texte, et nous verrons la suite une prochaine fois. Nous avons donc là Paul qui parle d'une confrontation qu'il a eue avec l'apôtre Pierre. Et le thème de cette prédication ce matin, c'est la vérité de l'Évangile coûte que coûte. La vérité de l'Évangile coûte que coûte. Dans les précédents épisodes, nous avons vu comment Paul a pris soin de prendre une certaine distance par rapport aux apôtres de Jérusalem, Galates chapitre 1. Et puis la dernière fois, nous avons parlé de Paul qui était monté à Jérusalem pour rencontrer les apôtres avec Barnabas et Tite, et que tous ensemble, ils étaient unis pour dire qu'il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Et main dans la main, littéralement, ils avaient manifesté cette unité, même si géographiquement ou en fonction de l'appel de l'un ou de l'appel de l'autre, ils pouvaient se répartir le travail. Pierre et les apôtres de Jérusalem annoncent l'évangile aux juifs, Paul et ses collaborateurs annoncent l'évangile aux non-juifs. Et puis le texte que nous venons de lire ce matin nous parle d'un conflit ouvert entre Paul et Pierre. Alors, en lisant cela, on peut se dire, mais Paul est quand même un sacré bonhomme. Il nous dit une chose et puis son contraire. Il nous parle d'unité, mais à la première occasion, eh bien, il se dispute avec les autres apôtres. On pourrait se dire, voilà, Paul fait profil bas quand il vient à Jérusalem, c'est ce que nous avions vu, chapitre 2, les versets 1 à 11. Et puis, lorsqu'il est dans son territoire à Antioche, et que c'est Pierre qui vient, alors là, Pierre en prend plein la tête. Paul règle ses comptes avec lui. Antioche, c'était la ville principale de Syrie, le berceau de la mission parmi les non-juifs. Là où les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens. C'est ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11 et au verset 26. Pierre et Paul sont deux chrétiens et même deux apôtres, c'est-à-dire des hommes à qui Dieu a confié une mission particulière, deux hommes qui sont investis de l'autorité de Dieu pour parler en son nom. Ce sont deux piliers de l'Église. Pierre, pour l'église juive à Jérusalem, Paul, pour l'église gréco-romaine. Et le livre des Actes des Apôtres lui-même met en avant l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces deux hommes. La première partie du livre, chapitres 1 à 11, est consacrée à Pierre. La deuxième partie du livre des Actes, chapitres 12 à 28, est consacrée à Paul. Pierre, Paul, les deux piliers de l'Église qui naît en Palestine. Et les voilà en conflit. Que se passe-t-il ici? Quel est l'enjeu? Pourquoi Paul s'en prend-il à Pierre? Voilà les questions auxquelles je vous propose de répondre ce matin. En deux temps, nous allons d'abord nous intéresser à Pierre et regarder quelle est son attitude, quelles sont ses motivations et les conséquences de ses actes. Et puis je ferai la même chose dans la deuxième partie pour Paul. Nous regarderons son comportement, ses motivations et les conséquences de ses actes. J'ai repris ici, pour le plan de cette prédication, ce que dit le plan que propose John Stott dans son commentaire sur l'Épître aux Galates. Premier temps donc, regardons Pierre. Je relis les versets 11 à 13. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui, dit Paul, ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. À Antioche, nous sommes en territoire non-juif, païen. Mais ce n'est pas un problème pour Pierre. Paul nous dit « il mangeait avec les non-juifs ». Le temps est à l'imparfait, c'était une, semble-t-il, une habitude, quelque chose que Pierre faisait régulièrement, et pas comme ça une fois. Pierre mangeait régulièrement avec des non-juifs. Dans le chapitre 10 et 11 du livre des Actes, on nous raconte que Pierre a eu une vision. Et dans cette vision, il voit une grande nappe avec à l'intérieur des animaux considéré par la loi juive comme impur. Et il entend une voix qui lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. Mange de ces animaux qui sont impurs au regard de la loi de Moïse. » Et Pierre dit « Non, je ne me souillerai pas, je ne veux rien manger d'impur. » Et la voix lui répond « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. » Et alors que la vision se répète plusieurs fois, une délégation arrive chez Pierre, une délégation qui vient d'un certain Corneille, un soldat romain, donc un non-juif. à qui Pierre va aller annoncer l'évangile. Et Corneille et les gens de sa maison vont se convertir à Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit, comme les Juifs à la Pentecôte, Actes chapitre 2. Et alors Pierre comprend que ces animaux impurs qu'il a vus dans la nappe, dans sa vision, ce sont les non-juifs auxquels Dieu accorde aussi le salut en Jésus-Christ et qui correspond aux prophéties de l'Ancien Testament. Pierre a donc appris à manger avec des non-juifs. Il mange chez eux et il les reçoit à sa table. Non seulement il est autorisé à le faire, mais il n'y a aussi plus de barrière en Christ. Il n'y a plus de personnes impures à éviter. Et il n'y a plus de personnes pures avec qui nous devons obligatoirement passer toutes nos relations, tout notre temps. Donc à Antioche, en terre non juive, Pierre mange librement avec des chrétiens, quelle que soit leur nationalité. Mais ici, Paul nous dit que quelques personnes sont venues de chez Jacques. Elles arrivent de l'église de Jérusalem. De chez Jacques, c'est-à-dire de l'entourage de Jacques, le pasteur de l'église mère de l'église de Jérusalem. Jacques, le frère de Jésus. Jacques qui était considéré comme Pierre, comme une colonne, comme un pilier de l'église de Jérusalem. Eh bien, quelques personnes se présentent comme envoyées par Jacques, peut-être pour mettre en avant l'autorité qu'elles ont. Et elles influencent Pierre et d'autres disciples. Pierre, qui mangeait sans scrupule avec les chrétiens d'origine non-juive, se met alors en retrait, parce qu'il craint les reproches de ses frères juifs. Et déjà, quand il était revenu de chez Corneille, Pierre avait été pris à partie. Je lis, « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient accueilli la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut revenu à Jérusalem, les circoncis le prirent à partie en disant, « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Actes chapitre 11, les versets 1 à 3. Et Pierre leur fait un exposé de ce qu'il a vécu chez Corneille et de la conversion de Corneille et du Saint-Esprit qui est descendu sur lui et sur les gens de sa maison à la prédication de Pierre. Et acte 11, verset 18 nous dit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc donné aussi aux non-juifs la repentance qui mène à la vie. » Donc on voit que dans l'Église naissante, c'est compliqué les relations entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. Et il y a dans le peuple juif l'idée que pour être un vrai chrétien, il faut être un vrai juif. Et c'est là tout le débat de l'épître aux Galates. Est-ce qu'il faut en passer par là, par la circoncision et par l'obéissance scrupuleuse à toute la loi de Moïse ? Pour être sauvé, ou est-ce que la foi en Jésus, et seulement la foi en Jésus, suffit pour être sauvé? Il y a là une tension qui n'est pas simple à gérer. Un seul évangile, d'accord, mais pour les juifs. Depuis quand Dieu s'intéresse-t-il au salut des non-juifs? Voilà une question qui était importante à ce moment-là dans la pensée juive. Et Pierre a la pression. Et il a probablement là un sentiment de honte qui le fait reculer par rapport à sa relation avec les frères d'origine non juive. Il les boude. Ils ne sont plus fréquentables quand des gens circoncis viennent manger avec Pierre. Voilà le comportement de Pierre dans cette situation. Quelles sont ses motivations ? Je viens déjà d'en donner quelques mots. Pourquoi Pierre casse-t-il la communion fraternelle ? Eh bien parce qu'il a la pression. Mais on a vu qu'en d'autres circonstances, Actes chapitre 11, Pierre est capable de tenir tête à ses frères juifs. Et il ne peut pas avoir oublié la vision que Dieu lui a donnée en Actes chapitre 10, à moins qu'il soit frappé soudainement d'amnésie. Mais on ne voit pas pourquoi Pierre aurait oublié cette vision, pourquoi il aurait changé d'avis par rapport à ce que Dieu lui a dit à ce moment-là. Pierre sait donc très bien que les non-juifs, Dieu ne les considère pas comme impurs. Et pourtant, Pierre s'esquive lorsque les circoncis, les juifs, arrivent à Antioche. Et c'est Paul qui nous dit pourquoi Pierre recule sur ses positions. Verset 12, dans Galates chapitre 2, Pierre agit ainsi par crainte des circoncis, et non plus par conviction personnelle. Notez bien ce contraste. Pierre agit par crainte, par peur de quelques personnes, et non plus par conviction personnelle. Pierre cède par manque de courage dans ses convictions. Et la vie d'une poignée de frères juifs a plus de poids pour lui que la communion avec un grand nombre de frères non-juifs. La pression de ces quelques personnes incite Pierre à renier ses convictions. Nous avions vu au début du chapitre 2 que Paul n'avait pas cédé aux faux frères, Galates 2, verset 5, lorsqu'il était monté à Jérusalem. Eh bien, lorsque Pierre vient à Antioche, Pierre cède à quelques personnes qui lui reprochent de manger avec des incirconcis. Le reniement de Pierre, ça vous dit quelque chose ? Pierre qui dit à Jésus, « Quand tu serais pour tous une cause de chute, tu ne le seras pas pour moi. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre lui dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent pareil. Matthieu 26, verset 33. Et puis au verset 69, Pierre était assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Il était avec Jésus le Nazaréen. » Pierre le nia encore, en jurant, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Vraiment, toi aussi tu étais de ces gens-là, ta façon de parler le montre bien. » Il y avait l'accent galiléen. Alors il se mit à jurer, sous peine de malédiction, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Quelles sont les conséquences du reniement de Pierre, dont Paul est le témoin dans cet épître aux Galates ? La conséquence, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dont l'origine du mot nous renvoie au théâtre. L'hypocrite, c'est celui qui porte un masque pour jouer un personnage, un rôle au théâtre. L'hypocrite, c'est celui qui joue la comédie. Et ici, nous avons le personnage Pierre qui mange seulement avec les circoncis. Pierre met un masque pour éviter de dévoiler son vrai visage, le Pierre qui mange avec tout le monde. C'est son vrai visage, on sait qu'il croit à l'évangile. Il sait, Pierre, que Dieu ne fait pas de favoritisme entre les juifs et les non-juifs. Et pourtant, lorsque quelques circoncis arrivent, eh bien, Pierre met le masque de celui qui ne mange qu'avec les juifs. Et cette hypocrisie de Pierre est un mauvais exemple. C'est la deuxième conséquence. La première, c'est l'hypocrisie. La deuxième, c'est que cette hypocrisie contamine les autres. Pierre entraîne d'autres dans l'hypocrisie, même Barnabas, dont le livre des Actes, chapitre 4, verset 36, nous le décrivait comme un frère d'encouragement. Eh bien, Barnabas, le frère d'encouragement, se prend au jeu de l'hypocrisie et devient, pour un temps, le frère, le fils de la trahison. Barnabas, qui, avec Paul, au début de Galates chapitre 2, était monté à Jérusalem et n'avait pas cédé aux faux frères à Jérusalem, eh bien lui aussi se met à mettre en pratique l'inverse de ce qu'il a défendu devant Pierre un peu plus tôt. Quand je vois l'attitude de Pierre, ses motivations et les conséquences de ses actes, je me dis, mais c'est moi ça. C'est nous. Les belles paroles que nous proclamons à un moment, que deviennent-elles lorsque surgit la tentation ou l'épreuve? Qu'advient-il de nos convictions? Des convictions que nous donne l'Évangile? Pierre n'a pas renié l'Évangile dans sa foi. Il est convaincu qu'il n'y a qu'un seul Évangile. Le même Évangile qui sauve les Juifs et les non-Juifs. Mais dans cette situation précise, il ne vit pas l'Évangile. Il renie l'Évangile dans ses actes. Il croit à l'Évangile, mais il ne le vit pas. Il est convaincu dans son cœur que Jésus-Christ sauve par la foi les Juifs et les non-Juifs. Mais ici, sa peur le conduit à l'hypocrisie. Et il suffit parfois d'une, deux ou de quelques personnes pour nous laisser entraîner dans l'hypocrisie. Et notez peut-être des personnes qui ont un certain statut à nos yeux. Des gens de l'entourage de Jacques. C'est pas n'importe qui. Oh là là! Et si Jacques venait à être au courant que je mange avec des incirconcis? C'est peut-être ce que Pierre pensait. Quand il va rentrer à Jérusalem, on va lui passer un savon. On va lui faire des reproches. Eh bien, pour éviter des reproches, Pierre tombe dans l'hypocrisie. Ce qui m'amène à la question suivante. Qui sont nos Jacques ou nos quelques personnes de l'entourage de Jacques à nous? Qui sont ceux qui nous mettent la pression ou que nous utilisons peut-être nous-mêmes pour nous mettre la pression à nous-mêmes, tout seuls? Des personnes qui font autorité et qui, plus ou moins inconsciemment, nous font passer d'une conviction personnelle à l'hypocrisie. Notre père, notre mère, un frère ou une sœur en Christ, le pasteur. Mais si le pasteur dit des bêtises, ne faut-il pas le reprendre? Ou bien est-ce parce que c'est le pasteur qui le dit? Devrions-nous renoncer à exercer notre jugement personnel? Ou bien tel prédicateur à la renommée internationale? Ou tel membre de notre famille, dont la parole compte pour nous? Vous voyez ici, l'exemple de Pierre est à mon avis un puissant avertissement contre l'hypocrisie. Nous pouvons, nous aussi, si nous n'y prenons pas garde, jouer un rôle de chrétien, mais sans la conviction que donne l'Évangile. ne suivons pas l'exemple du comportement de Pierre sur ce point. Si nous tombons dans l'hypocrisie, Dieu veut nous en sortir. Et c'est Jésus qui console Pierre de son triple reniement que j'ai évoqué tout à l'heure. À ces trois fois où Pierre a dit « Je ne le connais pas », trois fois Jésus lui demande après sa résurrection « Pierre, m'aimes-tu ?» Et au lieu de dire « Je ne te connais pas », Pierre dit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et alors Jésus lui dit « Eh bien, vas-y, bosse, travaille, paie mes brebis, fais ton travail de berger, de pasteur. Sois à l'œuvre plutôt que de jouer à l'hypocrite. » Si nous renions nos convictions, si nous renions par moments les vérités de l'Évangile, Dieu peut encore nous faire grâce, la grâce de son pardon, et nous apprendre à vivre dans la vérité. Nous avons donc besoin de laisser Dieu renouveler en nous la conviction, la force, la foi que donne l'Évangile. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'introduction de la lettre de Paul aux Romains. Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16, un verset que vous alliez citer par cœur, j'en suis persuadé, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Je n'ai pas honte de l'Évangile. Alors, ce verset nous permet de passer de Pierre à Paul. Regardons maintenant l'exemple de Paul. Son comportement d'abord. Nous allons relire les versets 14 à 16, Galates. Chapitre 2. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu obliger les non-juifs à adopter les coutumes juives ? Nous, nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas pécheurs comme les non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi en Jésus-Christ, et non des œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » Nous avions déjà vu au verset 11 que Paul s'est opposé à Pierre ouvertement, il dit. Et le verset 14 précise « devant tout le monde ». Et quand on lit ça, on se dit, Paul semble brûler les étapes proposées par Jésus en Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et bien là, Paul ne fait pas ça. Il reprend Pierre en public. Nous avions vu dans les précédentes prédications que Paul a de la considération pour Pierre. Pierre qui a été apôtre avant lui. Galates 1, verset 17. Pierre que Paul considère et qui est considéré comme un pilier de l'église de Jérusalem. Galates chapitre 2, verset 9. Et pourtant, cela n'empêche pas Paul de faire un reproche direct et public à l'apôtre Pierre. Franchement, c'est le genre de situation qu'on préfère éviter. Les conflits ouverts en public, c'est toujours délicat. Et cela arrive en général quand nous ne maîtrisons pas ou quand nous ne maîtrisons plus nos émotions. Ça sort, c'est plus fort que nous. Mais du coup, il est difficile de ne pas laver son linge sale en public, comme on dit. C'est-à-dire de de ressortir toute une liste de colères, de reproches ou d'amertume à la figure de l'autre. Mais cela arrive aussi quand l'enjeu est important. Et c'est le cas ici, me semble-t-il. D'ailleurs, Paul se mêle en public d'un problème public. Pierre et ceux qu'il a entraînés dans son hypocrisie ne se sont pas cachés pour mépriser leur frère incirconcis. Tout le monde a été témoin de leur double jeu. Paul réagit donc immédiatement à une situation qui a déjà fait des dégâts publics. Déjà, les chrétiens d'origine non-juive ont peut-être commencé à se dire « Eh ben, si c'est ça l'exemple des apôtres de Jérusalem, merci bien !» Pierre mange avec nous quand ses copains ne sont pas là, mais depuis qu'ils sont arrivés, il a honte de nous. Et ça se dit chrétien. Ah, elle est belle, l'église de Jésus-Christ. Là, c'est moi qui invente ce dialogue imaginaire, mais c'était peut-être l'état d'esprit de ces chrétiens que Pierre boude. Parce que ses copains sont arrivés, ses copains juifs. Et peut-être cela nous aide à cerner quel est l'enjeu ici. Ce qui nous conduit au deuxième point, les motivations de Paul. Pourquoi Paul intervient-il de cette manière? Comment ose-t-il s'opposer publiquement à un des apôtres de Jésus-Christ, à un des apôtres de l'église de Jérusalem? Est-ce que Paul nourrit quelque envie jalouse pour être le meilleur apôtre? Non, rien de cela ici. Paul réagit en live, comme on dit, parce que l'enjeu est vital pour l'Église, et en particulier pour les relations entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non-juive. Et ici, l'enjeu, c'est, Paul le dit ici, la vérité de l'Évangile, verset 14. Et il avait utilisé la même expression au verset 5, « La vérité de l'Évangile doit être maintenue parmi vous. » C'est ce qu'il dit aux chrétiens des églises de la Galatie. Au verset 5 et au verset 14, on trouve cette même formule. C'est pour la vérité de l'Évangile que Paul agit de cette manière. C'est pour la vérité de l'Évangile qu'il est monté à Jérusalem. C'est pour la vérité de l'Évangile qu'il confronte Pierre à Antioche. Au lieu de marcher droit, Paul dit, quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, au lieu de marcher droit, Pierre, par son attitude, dévie et encourage d'autres à dévier de ce droit chemin qu'est l'Évangile. Qu'est-ce que c'est ? La vérité de l'Évangile. Je cite ici John Stott dans son commentaire. C'est la bonne nouvelle selon laquelle nous, pécheurs, coupables et exposés au jugement de Dieu, pouvons être pardonnés et acceptés par pure grâce, sa faveur gratuite et imméritée sur la base de la mort de son Fils et nullement sur nos propres œuvres ou sur nos propres mérites. » Fin de citation. C'est ce qu'on appelle, en termes plus théologiques, la doctrine de la justification, que nous développerons dans la prochaine prédication sur Galates, mais dont nous avons déjà un aperçu ici, au verset 16. « Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi en Christ, et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » Voilà la vérité de l'Évangile. C'est une grâce que Dieu nous donne. Amen. En Jésus-Christ.
Amen.
Eh bien, de ce droit chemin de l'Évangile, il ne faut pas dévier sous peine de se perdre.
Amen.
Nous ne sommes donc pas, pour reprendre la formule peu familière de l'introduction, des imbéciles si nous ne changeons pas d'avis concernant l'Évangile. Il faut rester attaché à cette vérité qui nous sauve. Paul préfère faire perdre la face à Pierre, et Pierre se remettra de cet affront public, que de laisser Pierre et d'autres chrétiens dévier, et l'Église dévier, se détourner de la vérité de l'Évangile. Et là, certains pourraient ne pas s'en remettre, spirituellement parlant. En quoi l'attitude de Pierre se détourne-t-elle de l'Évangile ? Eh bien, c'est ce que dit Paul au verset 15, lorsqu'il dit « nous », c'est-à-dire « toi et moi, Pierre, nous sommes juifs de naissance ». Eh bien, nous qui sommes juifs de naissance, nous avons reçu le salut par la foi et pas parce que nous sommes juifs. Dieu nous a révélé, à toi, Pierre, et à moi, Paul, que tout homme, qu'il soit juif ou non, ne peut pas gagner la faveur de Dieu par son obéissance à des règles, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Christ a accompli à la croix, pas ce que nous, juifs, faisons pour plaire à Dieu, qui compte pour notre salut. Or, si la foi en Christ, si c'est la foi en Christ qui sauve un être humain, qu'il soit juif ou non, pourquoi toi, Pierre, te comportes-tu comme si les circoncis étaient plus chrétiens que les incirconcis ? C'est exactement ce que dit Paul au verset 14. « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu obliger les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Pierre, tu vis toi-même depuis déjà un certain temps, non plus sous le principe de la loi de Moïse, mais sous le principe de la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul lui rappelle qu'il vit déjà comme un croyant d'origine non-juive. Pierre est juif de culture, il est juif de naissance, mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif, puisque le seul moyen de salut, c'est le même pour tous, à savoir la foi en Jésus-Christ. Si donc Pierre vit par la foi comme un non-juif, comment peut-il forcer les non-juifs à se soumettre à la loi de Moïse pour être de bons chrétiens ? Vous voyez le raisonnement de Paul ? Quelles sont les conséquences de cette confrontation ? Le texte ici ne nous précise pas les fruits du reproche de Paul. Est-ce que Pierre s'est excusé ? Est-ce que Pierre a boudé ? Est-ce qu'il y a eu un débat public ? On ne sait pas. Mais je vous invite à relire cette semaine Actes chapitre 15, qui nous parle d'une conférence, d'un grand rassemblement, qui s'est tenu quelque temps après cette confrontation plutôt intime. Une conférence, un concile, une réunion à Jérusalem qui a décidé de ne pas exiger la circoncision des chrétiens d'origine non-juive. On voit donc dans la suite de l'histoire de l'Église, juste après cette confrontation entre Pierre et Paul, que le reproche public de Paul face à Pierre a finalement eu des conséquences positives. Non seulement pour Pierre, mais aussi pour l'Église de Jérusalem, et encore pour les relations entre les Juifs et les non-Juifs dans toute l'Église. Ce qui m'amène à quelques considérations pratiques pour nous, pour terminer cette prédication. Quand je vois l'attitude de Paul ici, ses motivations et les conséquences de son intervention, cela m'interpelle. Et je me demande, qu'est-ce qui me fait Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui nous fait réagir dans l'Église? Quand et comment prenons-nous position? Et dans quel but? Et sur quel sujet? Nous voyons ici dans cette confrontation entre Paul et Pierre que l'enjeu est vital pour l'Église, car c'est la mise en pratique de l'Évangile dans les relations fraternelles qui est en cause. Je ne suis pas sûr qu'il faille reprendre en public un frère si je pense qu'il a tort d'acheter ce produit WC-là pour faire le ménage dans les locaux. L'enjeu dans ce cas-là n'est probablement pas essentiel et se réglera au un à un, selon la parole de Jésus, avec patience et avec souplesse. Par contre, si un des responsables de l'assemblée venait à dévier de la vérité de l'évangile, alors là, je ne devrais peut-être pas hésiter à le reprendre. Vous voyez, tous les sujets de désaccord ne se règlent pas de la même manière. À divergence majeure, quand l'évangile est en cause, réaction ferme et directe. À divergence mineure, problème plus secondaire, disons, réaction pleine de tact, de douceur et de souplesse. En effet, qu'est-ce qui me dit que le produit WC que je recommande est le seul valable pour nettoyer tous les WC de toutes les églises locales en France? Je force le trait, évidemment. Et voyez, pour des choses qui sont des détails, nous pouvons affirmer des choses avec une conviction parfois déroutante. Je remarque aussi que l'intervention de Paul n'a pas un objectif personnel. Paul ne réagit pas publiquement pour faire passer un message personnel ou pour se mettre en avant et rabaisser Pierre. Paul discerne, il écoute, il réfléchit. Il y a aussi les sentiments qui sont là, hein. J'imagine qu'il a parlé avec force. Hein. Mais Paul discerne un enjeu pour l'Église. Et donc, pour la vie de foi des frères et sœurs de la communauté. L'hypocrisie est une plaie pour l'Église, et doit être combattue personnellement, dans nos vies, dans notre cœur, et collectivement. En défendant la vérité de l'Évangile, en fait, Paul veille sur Pierre, sur Barnabas, et sur la poursuite de l'œuvre de l'Église. Et donc, je me dis, en voyant l'exemple de Paul ici, que les reproches de nos frères et sœurs, s'ils sont dits à propos, sont aussi un moyen que Dieu utilise pour veiller sur nous. Pour veiller sur nous personnellement et pour veiller sur nous collectivement. Apprendre à faire de justes reproches et apprendre à recevoir de justes reproches et à changer d'attitude, ce qui a apparemment été le cas de Pierre, si on lit Acte 15. Voilà les défis que Dieu nous lance à travers l'exemple de Paul et de Pierre dans ce texte. Pourquoi ? Pour l'édification de l'Église. Au contraire, éviter les reproches entre nous. Je parle ici de reproches pour lesquels nous avons discerné un enjeu important pour la communion fraternelle. Éviter ces reproches, c'est faire le jeu de l'hypocrisie. C'est ouvrir la porte aux paroles en coulisses, pour reprendre le vocabulaire du théâtre. C'est ouvrir la porte aux paroles en coulisses, les rumeurs, les médisances, la calomnie, l'amertume, l'égoïsme. Parce que on ne va pas confronter son point de vue à celui de l'autre, on le garde pour soi, et on se conforte dans sa position. Eh bien, cette attitude hypocrite est potentiellement source de division. Et c'est ce que Paul a discerné dans cette situation. L'Église risquait de se diviser. Alors, je repense à ces beaux versets qui font le thème de notre année sur le pardon. Et je les relis avec vous comme un encouragement pour nous aider à mettre en pratique ce que nous avons vu dans l'exemple de Pierre et dans l'exemple de Paul ce matin. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. « Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'une tendresse abondante, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, à cause d'une faute quelconque, faites-vous des reproches. » Non, ça c'est pas dans le verset, mais je le rajoute là. Parce que c'est ce qu'on a vu ce matin. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Seigneur vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Te bénir pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ, non seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous sanctifier, pour nous faire progresser dans la foi, pour nous aider à vaincre progressivement nos propres hypocrisies, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient peut-être collectives. Nous avons tant de facilité à prendre des masques pour faire bonne figure auprès des autres. Apprends-nous, Seigneur, à vivre de la vérité de l'Évangile. Que nos vies chrétiennes soient des vies authentiques. Que nous n'ayons pas honte de l'Évangile. Que nous n'ayons pas honte d'annoncer l'Évangile. Mais que nous n'ayons pas honte non plus de vivre la vérité de l'Évangile entre nous. Apprends-nous à nous parler avec vérité.
Amen.
Apprends-nous à ne pas cacher des blessures qui mériteraient d'être mises en lumière. Apprends-nous à faire des reproches. Apprends-nous aussi à recevoir des reproches, parce que quand on reçoit un reproche, eh bien, notre moi, notre ego n'est pas très content. Parce que un reproche nous rappelle que nous avons besoin des autres et que nous ne sommes pas suffisants à nous tout seuls. Et cela, ça peut être dur. Parce que le péché est là, et le péché voudrait nous faire croire que nous pouvons tout régler par nous-mêmes, que nous n'avons pas besoin des autres, que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Pardonne-nous notre orgueil et notre hypocrisie. Viens à notre secours, Seigneur, pour que dans cette semaine, nous puissions voir ta grâce agir.
Amen.
Que nous soyons moins hypocrites et plus à défendre la vérité de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen.